Nathalie Lemaître, RTE. Une question brève. Comment évaluez-vous le pouvoir de nuisance de Trump dans ce contexte-là?
Réponse brève, ça va être difficile.
Non, je peux faire bref. Okay. Il est colossal. Il est colossal surtout pour, à vrai dire, pour son pays. Il peut ralentir la négociation, il peut sortir, il peut réussir à sortir s'il le veut de l'accord de Paris, ça ne le détruira pas. Je pense que les conséquences seront tellement graves à l'intérieur des États-Unis. Vous voyez, vous donnez un exemple. Il défend 50 000 emplois. Les emplois dans le monde du charbon aux États-Unis, c'est 50 000 emplois. Il y a probablement dans le domaine des énergies renouvelables aujourd'hui, à commencer par la Californie, près de 2 millions d'emplois. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Donc en fait, ce qui soutient Trump, c'est la partie la plus archaïque du capitalisme américain. Et je crois que c'est ça qui va être terrible pour son administration. Donc oui, son pouvoir de nuisance à court terme est considérable. Pardon ? Il peut perdre les élections du mid-term dans 2 ans. Et voilà, faisons en sorte qu'ils perdent que cette expérience se refasse. Les forces qui sont en œuvre en faveur d'une transition bas carbone aux États-Unis sont à mon avis beaucoup plus puissantes que Trump.
Bonjour, moi j'ai une petite question. Marion Alfaro, je travaille au Port de Paris. Vous nous avez parlé du rôle de l'industrie financière dans ces questions-là. Mais ce matin, on nous disait que notre destinée, c'était la décroissance. Est-ce que l'industrie financière sera prête à jouer aussi avec cette visée-là et avec, qu'on nous a présenté ce matin à la fois comme un objectif et même comme une fatalité, comme quelque chose qui va arriver, comment l'industrie financière s'inscrira dans cette dynamique-là ou cette contre-dynamique, je ne sais pas comment l'exprimer, mais comment elle voit venir ce point-là?
Alors, décroissance, encore une fois, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour pour les quelques décennies qui viennent, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, si vous voulez, ce ne sera pas possible. Maintenant qu'on aille vers une économie de service dont les taux de croissance seront plus faibles, oui, très probablement, parce que l'économie mondiale est arrivée à un niveau de maturité, et on le constate, y compris dans les pays émergents, à commencer par la Chine, si vous voulez. Donc oui, et je pense que c'est quelque chose qui est à quoi le capitalisme mondial, dont sa dimension financière, peut s'adapter, bien sûr, comme il s'est adapté à des quantités de choses. Je pense en revanche que ça pose un problème majeur, qui est celui de l'emploi et des inégalités. Et en gros, le transfert vers une économie de services, vers une économie à plus faible croissance, peut se traduire par une polarisation des emplois et par un accroissement des inégalités si on ne met pas en place à l'échelle mondiale des politiques de lutte contre l'inégalité. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'après 3 décennies pendant lesquelles l'idée dominante, le consensus s'est formé, y compris par des gens de gauche à l'échelle mondiale, sur l'idée que le plus important c'était de lutter contre la pauvreté et qu'on devait renoncer en quelque sorte à lutter contre les inégalités, ce consensus est en train de s'affaiblir considérablement. Le fait qu'il y ait un ODD négocié à l'échelle universelle qui prend comme objectif la lutte contre les inégalités est une très très bonne nouvelle.
ODD,
c'est au nom de la performance qu'on ne peut pas se permettre de laisser se polariser à ce point les groupes sociaux et les emplois et les revenus.
C'est ODD, tout le monde l'a en tête, c'est les objectifs du développement durable, c'est les nouveaux objectifs que l'humanité s'est donné après les objectifs du millénaire de Kofi Annan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant 15 ans, il y avait des grands objectifs du millénaire qui visaient à réduire la pauvreté, etc. Et simultanément avec l'agenda climat, ont été négociés des nouveaux objectifs ODD, les 17 dont Pierre Ducret parlait, et ces objectifs qui sont comme une feuille de route souhaitée et rêvée de l'humanité, adoptée par l'ONU en grande pompe, sont au nombre de 17, il y en a un certain nombre qui comprennent, et pour la première fois, ils sont très convergents entre l'enjeu écologique et l'enjeu de pauvreté et de développement. C'est pour ça qu'on les a rebaptisés objectifs de développement durable. Ultime question pour Pierre Ducret avant qu'on... Allez-y.
Oui, Frédéric Moulin, Vertegaz. Vous avez évoqué donc des trajectoires sans mouvement, le développement des énergies renouvelables, le transport, etc. Mais pour autant, la trajectoire nécessaire de, on va dire, de, de réorientation des flux financiers. Est-ce qu'on l'observe déjà? Est-ce qu'on peut lire des choses assez contradictoires sur le sujet, entre certaines ONG qui disent attention, on continue à surinvestir sur les fossiles, d'autres qui disent ça y est, on investit massivement sur les renouvelables. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés là-dessus qui permettent de dire qu'aujourd'hui, cette redirection des flux financiers, des 5 000 milliards de dollars que vous avez évoqués, est déjà en marche?
Alors, ce qui est en marche, c'est, pour vous donner un exemple sur les renouvelables, dans le domaine de l'électricité, c'est le fait que les volumes d'investissement, c'est plus, si je me souviens bien, c'est plus des deux tiers des volumes d'investissement dans les nouvelles capacités électriques installées au cours des deux dernières années qui ont porté sur les renouvelables. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça que je vous disais, là, la transition est vraiment en train de faire pour l'électricité. C'est en dehors de l'oil and gas. Mais c'est sûr que ce qui se passe sur les renouvelables est un pilote de ce qui va se passer partout, et le driver, ça a été l'innovation, l'effondrement des coûts. Et c'est sûr qu'on n'a pas ça dans tous les secteurs. Et notamment, on ne l'a pas encore sur les carburants, et notamment pour l'automobile, même si ça se développe à toute vitesse. Vu du côté de l'offre de capital, les coalitions dont je vous ai montré rapidement tout à l'heure quelques acronymes qu'il n'est pas nécessaire que vous reteniez, regroupent déjà des fonds de pension, des fonds souverains, des grands établissements financiers mondiaux qui gèrent des milliers de milliards de dollars et qui font pression sur les compagnies pétrolières aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'on a des grands fonds de pension américains qui votent avec des activistes dans l'Assemblée générale d'ExxonMobil, au nom de leurs risques. Vous voyez ? Donc, oui, les choses sont en train de changer, pas assez, pas assez vite. Acceleration is the name of the game. Voilà.
Héloïse Denis, Bouygues Construction. J'avais juste une question. Quelle différence vous faites, ou en tout cas, quel impact ça peut avoir entre la transition énergétique, la transition écologique et le développement durable ?
Pour moi, le climat, c'est le climat, c'est le, c'est une des trois questions majeures en matière de risque environnemental, à côté de la biodiversité. Je dis trois parce qu'on pense souvent à l'eau, mais je me demande, enfin, on ne sait jamais comment classer les choses. Est-ce que l'eau, c'est un risque à part, ou est-ce que c'est une conséquence du reste, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est sur ces sujets-là qu'on doit consacrer beaucoup de soins et beaucoup d'investissements nouveaux. Donc ça, c'est la question environnementale du développement durable, dans laquelle on trouve aussi d'autres dimensions, et notamment, par exemple, la lutte contre les inégalités, ou la lutte contre l'exploitation des êtres humains, et la volonté de sortir de la pauvreté, ceux qui y sont encore. Donc vous voyez, le développement durable est un terme plus large, et d'une certaine façon, si on ramène ça à la question de la ville, c'est ce que je disais tout à l'heure, le climat, notre capacité, la capacité de l'humanité à traiter la question du climat, à limiter, à nous limiter à 2 degrés, à nous adapter au réchauffement qui aura lieu, etc., c'est le démonstrateur de notre capacité à être durable. Si on ne réussit pas ça, on ne réussira rien. Parce que ce sera trop destructeur. Donc, bien sûr, c'est le sujet et l'agenda majeur. En plus, il a un gros avantage, c'est qu'il est chiffrable, et il est donc aujourd'hui ce qui manque à la biodiversité, par exemple, et l'autre grand sujet, qui n'a pas les métriques qu'on a dans le domaine du climat, qui permettent d'y voir assez clair sur ce qu'il faudrait faire. On sait dire, comme vous l'avez vu sur une de mes slides présentée très rapidement, voilà le budget carbone résiduel de l'humanité, c'est celui-là qu'il faut respecter. On ne sait pas dire, voilà le budget carbone résiduel de biodiversité résiduelle de l'humanité.
On va le savoir dans quelques instants.